Père Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ, 24 octobre 1986, Rimont.
N'était pas un laboureur. Ceux qui ont connu le père Rosti savent que c'est un laboureur, Rosti. Un paysan. Toujours intéressant de voir un paysan qui devient exégète à l'Institut catholique de Paris. Après avoir passé finalement tous ses grades à Rome et à Jérusalem, de voir que quelqu'un comme Rosti. Je connaissais un peu Steve, je connaissais, c'est pour ça que je l'aime profondément. Il n'a pas la qualité du père Feuillet, c'est sûr, mais il avait un très grand bon sens. Extraordinaire. Il ne serait pas entré dans des choses. Alors de mettre l'Apocalypse et puis l'Évangile de Saint Jean après, ce que je crois personnellement, ce qui n'empêche pas qu'on puisse lire l'Évangile de Saint Jean avant l'Apocalypse. Mais si l'évangile de Saint Jean est l'ultime révélation, c'est sûrement l'ultime au point de vue nature. Et c'est l'ultime au point de vue génétique. C'est intéressant aussi à noter. C'est une rencontre des deux. Vous comprenez que l'évangile de Saint Jean, plus que n'importe quel autre écrit sacré, a des sens infinis. L'évangile de Saint Jean, on doit pouvoir l'interroger de diverses manières. Mon premier souci dans la lecture de Saint Jean, c'était de découvrir l'ordre. Bon, vous savez, il y a un ordre de sagesse. Et je crois que ça c'est très important. Parce qu'on découvre par là le lien de Saint Jean avec toute la grande littérature sapientiale, qui était un des grands soucis du père Braun. Le père Braun avait très fort et sentait très fort combien Saint Jean était lié à tous les livres sapientiaux. Les livres sapientiaux, vous voyez, c'est l'influence grecque sur la révélation. C'est intéressant de voir que Jean était lié particulièrement à tous les livres sapientiaux, ce qui est vrai, ça, je crois. Je crois que c'est profondément vrai. Il y a chez lui un souci d'ordre, beaucoup plus que les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle le théologien. Si la tradition appelait Jean le théologien, c'est à cause de ça. C'est parce que il y a beaucoup réfléchi avec Marie. Et par elle, sur la manière dont Jésus avait enseigné les apôtres et nous-mêmes. Cette pédagogie qui est une pédagogie éternelle, celle de Jésus, c'est une pédagogie dans l'ordre de la foi qui conduit au mystère de la croix et à la sagesse de la croix. Il y a l'ordre. On peut essayer de faire ce que nous avons fait une année. De comprendre comment tout était ordonné à la découverte de toutes les dimensions du mystère du cœur blessé de Jésus. La fine pointe, l'ultime pointe de toute la révélation, c'est le cœur blessé de Jésus. C'est un geste. La parole, j'ai soif. Et le geste, puisque de fait, toute la révélation est ordonnée à la révélation de l'amour de Dieu sur nous. Si Dieu se révèle à nous, c'est pour nous révéler qu'il est amour. Et donc toute la révélation est une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Or, le geste révèle plus ce qu'est l'amour que la parole. Si vous avez, au point de départ de l'écriture, les deux récits de la création, le second récit qui insiste sur le geste de Dieu, le geste du Créateur, c'est pas commode de comprendre le geste du Créateur, hein. Parce que comme on crée à partir de rien, un geste se fait toujours à partir de quelque chose. Et de l'évangile de Jean, la finalité de la révélation, c'est de nous révéler que Dieu est amour. Et on peut lire toute l'écriture dans la lumière ultime du coup de lance. Ça, c'est net. Et l'Apocalypse vient nous confirmer. C'est que ceux qui s'opposent de la manière la plus forte au coup de lance, c'est la grimace intellectuelle du démon. La bête de la mer a sept têtes, et une de ses têtes est blessée à mort. Et elle renaît, elle ressuscite. C'est la caricature du coup de lance. Ça nous aide, puisque nous sommes de pauvres êtres qui connaissons en comparant les caricatures, nous aident à comprendre la réalité. Ça, le démon nous aide à comprendre la réalité. Les caricatures du démon. Or, c'est net, selon l'Apocalypse, que c'est la bête de la mer. C'est la causalité finale. plus matérielle. Elle est enfouie. C'est le cœur de Marie. Les matériaux dont Jean s'est servi. Les exégètes qui d'habitude aiment beaucoup la cause matérielle. Les matériaux. Quels sont les matériaux de l'évangile de Saint Jean? Mais je crois que le matériel principal dont s'est servi Jean, c'est ce que Marie a gardé dans son cœur. Alors ça échappe. On ne peut pas l'analyser. C'est le vécu du cœur de Marie, vous voyez. Le vécu du cœur de Marie. On pourrait le faire, le vécu du cœur de Marie. En dernier lieu, alors nous essayons de voir la cause efficiente qui anime tout l'évangile de Saint Jean en cherchant le mystère du sacerdoce. Je vous dis ça pour que vous compreniez que ces recherches qui semblent à première vue diverses et sans être reliées impliquent un lien. L'ordre, l'aspect ultime et la source de cet aspect ultime. Jésus s'offre. Vous allez considérer parce que Jésus, il est plus exactement, le texte nous dit grâce à sa gloire. Or, la croix, c'est la manifestation de la gloire du Christ. Donc, Cana annonce la gloire. Cana annonce la croix. De plus, Marie est présente, comme à la croix. Alors que dans toutes les autres activités du Christ, Jean ne parle pas de Marie dans l'évangile de Saint Jean. Donc là, il y a une volonté expresse de montrer la présence de Marie. Et cette présence de Marie, c'est la présence de la femme. C'est Jésus qui l'appelle femme, à Cana comme à la croix. Alors, si on veut comprendre Cana du point de vue sincère total, c'est ça qui m'intéresse ici. J'interroge chacune de ces activités du Christ pour voir ce que ces activités du Christ me disent de son sacerdoce. Donc, du point de vue sincère total, qu'exprime Cana ? Vous pourriez me dire, mais ça n'exprime rien du tout, puisque c'est pas un geste sacerdotal que de changer l'eau en vin. Ce serait trop commode. On aurait un sacerdoce que tout le monde aimerait beaucoup. N'est-ce pas ? Gratuitement, transformation de l'eau en vin. C'est un signe, donc une manifestation de ce qu'est le sacerdoce de Jésus. C'est comme un préambule, un signe. Et c'est très important, parce que ça nous fait comprendre que le sacerdoce de Jésus, seul, ceux qui ont soif peuvent le comprendre. Ça nous fait comprendre que le sacerdoce de Jésus est lié à la demande de la femme, de Marie. Ce n'est qu'un signe. Marie demande et Jésus exécute. À la croix, Marie ne demande plus rien, mais la croix se prolonge en elle. Aimé en seul. C'est extraordinaire. Il veut tout de suite la coopération de l'homme. Et si la coopération de Marie, de la femme, est une coopération qui fait que Jésus, devant son œuvre, la loi, c'est l'eau, et le Nouveau Testament, La nouvelle alliance, c'est le vin. Donc, voyez, regardez Cana dans la lumière du sacerdoce de Jésus. Et voyez comment le sacerdoce, habituellement, jusque-là, s'exprime en premier lieu par le sacrifice. Et le sacerdoce du Christ ne s'exprime pas en premier lieu par un sacrifice, mais dans un repas de noces, pour nous faire comprendre que ce sacerdoce réalise une alliance d'époux et d'épouses. C'est pour ça, c'est ça qui est fou, par ça. Mais ce n'est pas dit expressément sous un mode symbolique. Donc, il y a là quelque chose de très grand pour nous. Hein. Cana, c'est quelque chose de très grand. Parce que c'est le point de départ. Et le point de départ est particulièrement important. L'alpha de la vie apostolique de Jésus. Et donc, de son sacerdoce. Ensuite, regardez Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Ici, c'est beaucoup plus facile de comprendre le geste sacerdotal, puisqu'on est dans le temple. C'est un geste de purification. Second aspect du sacerdoce du Christ, la purification. Et c'est très important de voir l'ordre. Là, ça intervient. Si nous avions donné un conseil au Saint-Esprit, nous aurions dit au Saint-Esprit qu'il fallait commencer d'abord par chasser les vendeurs du temple. Parce que Jésus vient d'abord pour le temple. Et pour purifier la manière dont on vivait sa vie religieuse. Bien, pas du tout. Jésus va d'abord au repas de noces. On voit très bien l'accusation des pharisiens. Il est venu comme quelqu'un qui était heureux d'assister aux noces. Ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais dans le temple. Ce qui est premier dans le regard sacerdotal du Christ, c'est de donner une capacité nouvelle d'aimer, plus que les rites, plus que la liturgie. L'alliance nouvelle avec le sacerdoce du Christ est d'abord intérieure. C'est une capacité d'aimer. Commence par Cana pour bien nous faire comprendre ce renouveau total du cœur de l'homme. Et ça, on peut le dire, c'est vraiment le geste sacerdotal du Christ. Le Christ, comme prêtre, son action sur nous, c'est en premier lieu de nous faire vivre de l'alliance de l'époux et d'épouse. Et ceci, grâce à l'action de Marie. Ensuite, il veut nous faire comprendre que la transformation de notre cœur en son cœur implique nécessairement que la créature adore d'une nouvelle manière. Et on peut dire qu'en second lieu, on découvre le sacerdoce de Jésus dans cette exigence nouvelle de l'adoration. C'est une adoration qui implique qu'on soit totalement donné. Il n'y a pas possibilité de faire des mélanges. Parce qu'au fond, c'est ce qui se passe là. On voudrait concilier le sacré et le profane. Ce serait tellement agréable d'avoir un commerce. commerce ne peut pas être sacré. Le commerce, gagner d'argent. C'est ces braves gens qui sont à la table, qui sont là dans le temple, ne font rien de mal puisqu'ils sont là pour permettre les offrandes. Et cependant, Jésus tolère pas ça. Là encore, vous voyez, l'action sacerdotale de Jésus. Il prend l'initiative. Et cette initiative se fait dans un geste de colère. La colère du prêtre. Les saintes colères du prêtre. Le prêtre a le droit de se mettre en colère, là, quand on confond le sacré et le profane. très important, ces choses-là. Ça éclaire des tas de choses dans notre vie. Vous voyez, parce que c'est, j'allais dire, c'est le sacerdoce à l'intérieur du temporel. Le prêtre ne fait pas d'œuvre temporelle comme prêtre. Il ne fait pas une œuvre temporelle. Alors quand il se met à faire une œuvre temporelle et qu'il dit qu'elle est sacrée, il perd du temps. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est lorsque quelque chose de sacré retourne au profane, c'est une rapine. Alors je crois qu'on faudrait étudier ça de près parce que ça nous aiderait énormément à comprendre beaucoup de choses de notre temps d'aujourd'hui. Et c'est le second geste de Jésus. Hein. Cana, purification du temple. C'est donc très fondamental. Et je crois qu'en effet c'est très fondamental. Un des rôles particuliers du sacerdoce du Christ, c'est de rappeler constamment la distinction du sacré et du profane. Et de voir jusqu'où va cette distinction et qu'est-ce qui est profane, qu'est-ce qui est sacré. C'est pas toujours commode. Il y a certaines choses qu'on voit très très bien. Le commerce, c'est pas du sacré. C'est bien évident. C'est pas du sacré. C'est du profane. Alors il ne faut pas que le profane devienne tellement important qu'il contamine le sacré. Vous voyez, le primat de l'efficacité temporelle et l'efficacité divine consiste à intervenir pour sauver le sacré par rapport au profane. Le profane tend toujours à s'étendre. Primordiale parce que nous sommes des êtres commerçants, c'est sûr. On a un appétit particulier de faire quelque chose, une efficacité. Alors le profane à ce moment-là l'emporte sur le sacré, sur ce qui est consacré à Dieu. Il faut réfléchir, voix du sacerdotal sur ce geste de Jésus, c'est tellement important. Et on voit comment Jean a compris que ce geste était la première fois que Jésus monte à Jérusalem dans sa vie apostolique. Ce que les autres n'ont pas compris. Vous voyez, c'est Jean qui, je crois, là, corrige les autres. Parce que je ne crois pas qu'il y ait eu deux fois le geste. Je ne crois pas. Et du reste, si vous êtes attentif, et selon ce que l'évangile de Saint Jean nous montre, ce geste de Jésus qui corrige les vendeurs, qui les chassent du temple, n'aurait pas pu se faire à la fin de la vie apostolique de Jésus. C'est impossible. Vu le climat, enfin, il pouvait très bien se faire au début. Jésus, au début, peut prendre des initiatives. Alors, ça, c'est aussi très important parce que ça montre. Saint Jean, en faisant ça, nous fait comprendre combien ce geste est fondamental au point de vue du sacerdoce de Jésus. C'est très important ce geste. Troisième geste, l'entretien de Jésus à Nicodème. Alors là, c'est facile à comprendre. Le sacerdoce du Christ implique la consécration dans la vérité. Consacre-les dans la vérité. C'est un sacerdoce qui assume un enseignement. Enseigner sur toutes les choses divines, la théologie et l'enseignement de la philosophie. C'est quelque chose de sacerdotal. Du sacerdoce du Christ. C'est assez étonnant ça. Et c'est très grand à voir. Jésus, comme grand prêtre, enseigne à Nicodème. Évidemment, Jésus a choisi quelqu'un de particulièrement intelligent. Parce que pas prophétique, mais c'est quand même curieux, c'est le passage du visible à l'invisible. Et quand l'Esprit Saint permet le dévoilement immédiat du visible à l'invisible, alors là, on touche quelque chose de prophétique. Mais c'est toujours lutter contre le positivisme qui ramène tout au sensible, qui ramène tout au mesurable. La lutte contre le positivisme, c'est justement de délier ou de libérer l'intelligence dans sa recherche de la vérité. Et montrer la grandeur d'une intelligence qui recherche la vérité. Et ceci est une œuvre sacerdotale. Libérer l'intelligence est une œuvre sacerdotale. Du sacerdoce royal des fidèles. Pas du sacerdoce ministériel, ça peut l'être, mais c'est le sacerdoce royal des fidèles. Libérer les intelligences, enlever tous les complexes, enlever tout ce qui les lie à ce qui n'est pas la vérité, à tout le conditionnement. Nicodème est ligoté par le conditionnement, un conditionnement très radical, puisque c'est le conditionnement de sa naissance. C'est un conditionnement substantiel. Il est bien né, Nicodème. Il est tellement heureux d'être bien né qu'il ne voit plus ça. C'est vrai, ça. C'est bien ce que Jésus prend pour le libérer de ce conditionnement radical et fondamental. Il faut naître de nouveau. Vous comprenez bien que Nicodème est persuadé qu'il n'a pas besoin de naître de nouveau. Puisqu'il est de la race d'Abraham. C'est un conditionnement terrible celui-là. Et Jésus montre ça. C'est très beau, la libération de Nicodème. C'est une chose extraordinaire ça. Alors, je vous ai déjà dit, hein, ce chapitre 3, c'est la grande leçon de théologie. Et la grande leçon de théologie, c'est de nous apprendre qu'il y a une nouvelle naissance. Et au fond, c'est toute la théologie, c'est faite pour ça. Enlever toutes les confusions par rapport à cette nouvelle naissance. Et montrer que cette nouvelle naissance est absolument nécessaire. Et que cette nouvelle naissance est actuelle. Actuellement, nous naissons à cette vie nouvelle, à cette vie divine. Alors, c'est sacerdotal, puisque c'est libérateur. Libérateur en vue de quelque chose de divin. Le propre du sacerdoce, c'est de nous libérer de tout un conditionnement humain qui risque de devenir l'absolu. Quand vous réfléchissez trop sur tel ou tel conditionnement humain, et que vous considérez que ce conditionnement humain est absolu, vous êtes enfermé dedans. Noble et si grand que ce soit ce conditionnement. C'est très beau de voir comment le sacerdoce de Jésus implique cet enseignement au docteur. Docteur, à celui qui est docteur en Israël et qui tient trop à ses propres conclusions et qui ne vit pas assez de la foi. Puisque c'est la foi qui justifie. Donc vous voyez ces trois premiers moments qui sont particulièrement importants, réservés au peuple d'Israël. Nous continuerons.